Bonjour à toutes et à tous, il est midi 30 sur France Culture. Tout de suite, c'est l'heure du journal de la rédaction, présenté par Nicolas Balu. Bonjour Nicolas.
Bonjour Maëlys, bonjour à tous. À Hong Kong, nouveau week-end de manifestations en perspective. Pendant toute la semaine, Pékin n'a cessé de mettre en garde les manifestants et les autorités locales. Nous irons sur place avec Valérie Crova. Les menaces chinoises ne semblent pas avoir d'effet. Toujours l'attente pour l'Open Arms en Italie. Le navire humanitaire n'a pas accosté à Lampedusa. Matteo Salvini s'y oppose. Pourtant, 6 pays d'Europe ont accepté de prendre en charge les migrants. L'historienne Ludmila Akona nous dira pourquoi le ministre de l'Intérieur ne bouge pas alors qu'il demande précisément la solidarité des pays européens en la matière. Le nouveau tir de 2 missiles nord-coréens. Les autorités de Pyongyang répondent violemment au président du Sud, Moon Jae-in. Il propose la réunification des deux Corées en 2045, la correspondance de Frédéric Ojardias à Séoul. Les salariés de Google disent non à la politique de Donald Trump en matière d'immigration. Ils demandent à leur entreprise de ne pas répondre à des appels d'offres de l'administration américaine. Les explications de Loïc Piala dans ce journal. Transavia en grève, pas de conséquences majeures sur les vols, mais la compagnie low cost d'Air France a connu un été difficile, nous dira Annabelle Grelier. Et puis la formidable découverte, des esquisses du Petit Prince ont été retrouvées dans une vieille maison en Suisse. Laura Dulieu nous dira plus précisément ce qui a été retrouvé. Au programme de la grande table, Maëlys.
Nous allons parler du festival de Lussas et de deux films qui y sont programmés, Vacancy d'Alexandra Candilonguet et Le Village de Claire Simon, sa série. Et puis nous ferons le portrait de la compositrice Camille Pépin.
Merci Maëlys, à tout à l'heure. Hong Kong se prépare à un nouveau week-end de manifestations après plusieurs avertissements de Pékin. Le mouvement pro-démocratie a été critiqué après les violences de mardi à l'aéroport. Pékin a depuis haussé le ton. Les autorités centrales parlent de quasi-terrorisme. Des troupes sont désormais massées juste en face à Shenzhen. La préoccupation est vive en Europe et aux États-Unis. Donald Trump finit par se dire extrêmement inquiet. Valérie Crova, bonjour.
Bonjour.
Vous vous trouvez à Hong Kong. Les menaces chinoises ne semblent pas avoir un quelconque effet sur les manifestants pour l'instant.
Oui, effectivement, rien ne semble entamer la détermination de ces manifestants qui ont prévu de se retrouver ce soir pour un premier rassemblement, le premier du week-end. Malgré les bruits de bottes qui se font entendre non loin de Hong Kong, les manifestants s'inscrivent dans la durée. Ce matin, un activiste me confiait qu'il n'avait pas peur d'une intervention chinoise. Cela ne résoudrait rien, selon lui, et puis Pékin ne pourrait pas déployer ses soldats en permanence. Pour lui, la seule façon pour l'armée chinoise de venir à bout du mouvement serait de tuer tous les manifestants, ce qui évidemment est difficilement concevable. Alors de son côté, la police de Hong Kong a fait savoir ce matin qu'elle disposait de ressources en hommes suffisantes pour faire face aux manifestants pro-démocratie, ce qui éloigne les craintes d'un recours à une intervention militaire depuis la Chine continentale. La police de Hong Kong est composée d'environ 30 000 hommes et femmes, et puis il y a des centaines de réservistes qui peuvent également intervenir si les manifestations prenaient davantage d'ampleur. Alors d'autres rassemblements sont prévus demain dans des quartiers situés sur le front de mer qui sont des quartiers très prisés des touristes qui viennent de Chine. Et le point d'orgue sera une grande manifestation dimanche. L'appel à manifester a été lancé par le Front civil des droits de l'homme à l'origine des manifestations géantes qui avaient réuni 1 million de personnes au mois de juin et de juillet.
Merci Valérie Crova en direct de Hong Kong avec les moyens techniques de Jérémy Tuile. Pour être tout à fait complet, on apprend la démission du directeur général de Cathay Pacific, la compagnie aérienne hongkongaise. Rupert Hogg dit assumer la responsabilité en tant que dirigeant de la compagnie des récents événements. Des personnels de la compagnie avaient affiché leur soutien aux manifestants. L'Open Arms est toujours bloqué au large de Lampedusa. 134 personnes sont à bord, des Africains pour la plupart. 13 passagers ont été évacués au cours des 24 dernières heures, essentiellement pour cause médicale. Mais le ministre de l'Intérieur italien, Matteo Salvini, s'oppose encore à l'accostage du navire humanitaire espagnol, et ce malgré l'accord européen sur la prise en charge des migrants du navire. Le chef de file de la Ligue demande pourtant la solidarité européenne pour la prise en charge des migrants. La contradiction est apparente. Selon l'historienne spécialiste de l'Italie contemporaine Ludmila Akone, le ministre de l'Intérieur a fondé sa crédibilité avant tout sur sa ligne anti-migrants.
c'est son cheval de bataille. Dès le départ, la question sur laquelle il a bâti sa stratégie politique depuis qu'il est au gouvernement et sur laquelle il a fait campagne électorale aux européennes et aux régionales, c'est stop aux migrants, stop aux bateaux, avec l'idée que finalement, c'est le problème principal des Italiens. Il y aurait une invasion, une arrivée de criminalité de l'extérieur vers l'Italie, alors qu'en fait, nous savons bien que le nombre de migrants a fortement diminué, que la délinquance, elle est souvent due à l'Italie elle-même, aux Italiens eux-mêmes, voire à des groupes mafieux. Donc je pense qu'il va continuer probablement à faire le bras de fer, mais en même temps, il a d'autres questions à régler en ce moment aussi. C'est celle de la crise gouvernementale qu'il a lui-même provoquée. C'est-à-dire, je rappelle quand même qu'il a défié un gouvernement qui était son propre gouvernement, ce qui est quand même assez étrange. Il essaye probablement de faire diversion et de relancer son cheval de bataille. Je suis le défenseur de l'intérêt des Italiens contre les étrangers qui arrivent et je tiens bon malgré les vicissitudes comme un timonier à son bateau, vous voyez.
L'historienne Ludmila Hakon, interrogée par Juliette G. La Corée du Nord multiplie les tirs de missiles depuis 3 semaines. 2 projectiles ont encore été lancés ce matin depuis sa côte est en direction de la mer. Le régime nord-coréen dénonce les exercices militaires conjoints débutés par la Corée du Sud et les États-Unis. La réaction de Pyongyang est traditionnelle dans ce genre de cas, mais cette fois elle s'accompagne de propos très sévères et définitifs envers la Corée du Sud. « Nous n'avons rien de plus à discuter avec les autorités sud-coréennes », dit Pyongyang. Kim Jong-un et Moon Jae-in se sont pourtant rencontrés à plusieurs reprises depuis avril. À Séoul, Frédéric Ojardias nous donne la raison de ce raidissement.
La Corée du Nord ne semble pas avoir apprécié la main tendue par le président sud-coréen Moon Jae-in. Celui-ci a proposé hier une réunification d'ici 2045. Certes fantaisiste, cette proposition constituait surtout un appel à Pyongyang à reprendre le dialogue. Mais un représentant du régime a qualifié Moon Jae-in de type effronté qui est dominé par la peur, selon un communiqué relayé par l'agence de presse officielle. Nous n'avons plus rien à discuter avec Séoul et nous n'avons aucun désir de nous asseoir de nouveau autour d'une table, poursuit Pyongyang. La Corée du Nord a accompagné ces insultes d'une nouvelle série de tirs de missiles, la 6e depuis le 25 juillet. 2 missiles balistiques ont été mis à feu ce matin. Ils ont parcouru 230 km avant de s'abîmer en mer du Japon. La Corée du Nord continue ainsi d'enfoncer un coin dans l'alliance entre la Corée du Sud et les États-Unis. Le président américain Donald Trump ne cesse de minimiser la menace représentée par les récents missiles nord-coréens qui peuvent pourtant emporter une charge nucléaire sur le territoire sud-coréen. Le régime de Kim Jong-un continue aussi de laisser ouverte la porte aux négociations nucléaires avec les États-Unis, des négociations qui pourraient reprendre fin août une fois que les manœuvres militaires sud-coréano-américaines seront terminées.
Frédéric Ojardias de RFI pour France Culture. Le gouvernement indien annonce qu'il va lever dans les prochains jours les mesures imposées au Cachemire pour restreindre la liberté de circulation des personnes. Il va également lever les restrictions de communication. New Delhi a supprimé le statut particulier dont bénéficiait cet état du nord de l'Inde. Le pas en arrière des autorités israéliennes, le gouvernement autorise finalement la visite de l'élu démocrate Rachida Tlaib, autorisation d'entrée pour une visite humanitaire à sa grand-mère, selon le communiqué du ministère de l'Intérieur. Rachida Tlaib est la première élue au Congrès américain d'origine palestinienne. Elle soutient le boycott d'Israël. L'américaine s'est engagée à ne pas faire avancer la cause du boycott durant sa visite. L'autre élu, Ilhan Omar, est toujours interdite d'entrée depuis l'intervention de Donald Trump via Twitter. Des employés de Google s'opposent à la politique de l'immigration menée par l'administration Trump, politique particulièrement controversée. Des centaines de salariés demandent publiquement à leur entreprise de ne pas participer aux appels d'offres du gouvernement américain dans le domaine de l'immigration. Ces employés disent ne pas vouloir être complices des violations des droits de l'homme à la frontière. Loïc Piala.
Au moins 7 enfants sont morts sous la surveillance des services américains de l'immigration. La politique de séparation des familles à la frontière choque aussi de nombreux citoyens du pays, y compris des Googlers, le surnom des employés de Google. Il est temps de dire non, prévient leur pétition publiée sur le site Medium. Il est inadmissible que Google ou toute autre firme technologique soutienne des agences gouvernementales enfermant et torturant des gens vulnérables, dit le texte. Ces agences ont notamment besoin de l'expertise de la Silicon Valley pour la mise en place de leurs services informatiques et la gestion de leurs données. Pour l'instant, la pétition n'a rassemblé que quelques centaines de signatures, des miettes par rapport aux 85 000 googleurs à travers le monde. Mais ces deux dernières années, la mobilisation de ses employés a poussé la société californienne à agir. Sous la pression, Google a suspendu le projet Maven, un partenariat avec le Pentagone en matière d'intelligence artificielle. Le géant de la Silicon Valley a également renoncé au projet Firefly, une version censurée de son moteur de recherche pour le marché chinois.
Loïc Piala à Los Angeles. Alors qu'un nouveau week-end de départ et surtout de retour de vacances approche, Transavia entre en grève. La CGT appelle les hôtesses et stewards de la compagnie aérienne à cesser le travail à partir de ce soir. Les salariés de la filiale low-cost d'Air France veulent être associés au développement de l'entreprise. Transavia va plutôt bien et pourtant cet été, la compagnie a connu quelques turbulences. Annabelle Grelli, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Qu'ils soient pilotes, hôtesses ou stewards, tous regardent du côté de la maison mère Air France.
Oui, car c'est là que se prennent les décisions et les salariés de Transavia ont du mal à avaler que ce soit en l'occurrence le syndicat des pilotes d'Air France, le SNPL, qui tienne dans ses mains le développement de Transavia. C'est lui en effet qui en 2014 avait exigé que la flotte d'avions de Transavia ne dépasse pas les 40 appareils, que ces appareils ne puissent pas voler au-delà de 5000 km, bref qu'ils se cantonnent aux courts et moyens courriers. Il avait exigé également que Transavia ne puisse pas recruter de commandants de bord à l'extérieur, ils devaient tous être issus d'Air France. Tous ces vétos étaient une sécurité pour limiter les transferts d'activité vers la low cost et protéger les statuts au sein de la maison mère. Des vétos qui ont été en partie levés à la fin juillet. Les pilotes d'Air France ont voté en référendum pour lever le fameux quota des 40 appareils. Ils ont obtenu en contrepartie le contrat unique pour les pilotes qu'ils volent pour Transavia ou pour Air France. En revanche, rien n'a été fait pour les hôtesses et les stewards. Chez Transavia, un tiers du personnel navigant est en CDD, dénonce la CGT. La CGT, principal syndicat chez Transavia, y ajoute une liste de revendications allant du manque d'organisation, manque de pilotes et même un cas d'agression sexuelle qui pourrit le climat social dans la compagnie depuis des mois. Déterminée, la CGT vient à déposer un préavis de grève courant jusqu'au 5 janvier. La direction de Transavia se dit surprise, mais aucune rencontre n'est prévue pour le moment.
Merci Annabelle Grelier. Le coût de la vie étudiante augmente plus vite que l'inflation. L'enquête du syndicat étudiant UNEF indique une hausse de 2,83%. Rappelons que l'inflation est autour d'1,2% sur un an. Ce sont surtout les loyers qui ont augmenté. Cette année, l'UNEF a décidé d'évaluer la différence du coût de la vie entre les étudiantes et les étudiants. Le verdict est sans appel, affirme le syndicat. Les femmes doivent débourser beaucoup plus. On peut encore redécouvrir le Petit Prince. La preuve, des esquisses de la célèbre œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry ont été retrouvées en Suisse parfaitement par hasard. Bonjour Laura Dulieu.
Bonjour.
La découverte est extraordinaire. Ces esquisses étaient stockées et sans doute oubliées dans une vieille maison depuis des années.
Oui, depuis plus de 30 ans, ces esquisses étaient conservées dans un dossier en carton, dans une vieille bâtisse, celle d'un mania de l'immobilier, Bruno Stefanini. Ce collectionneur décédé en décembre 2018 stockait dans sa maison de Winterthur près de Zurich des dizaines de milliers d'œuvres d'art. Les dessins retrouvés sont en très bon état. Il y en a trois dessins liés au Petit Prince. Le buveur sur sa planète, le boa qui digère un éléphant et le Petit Prince avec le renard. Un poème illustré et une lettre d'amour adressée à la femme de Saint-Exupéry ont aussi été retrouvées. L'écrivain a en effet vécu 2 ans en Suisse, de 1915 à 1917, dans un pensionnat religieux de Fribourg. Toutes ses œuvres avaient été acquises par le collectionneur lors d'une vente aux enchères en 1986. C'est la Fondation pour l'art, la culture et l'histoire de Winterthur qui a fait ses découvertes. Une fondation créée par Bruno Stefanini lui-même pour gérer toute sa collection d'art. On ne sait pour l'instant pas ce que vont devenir ces esquisses, mais le reste des dessins originaux du Petit Prince sont conservé à la Morgan Library à New York et la fondation a indiqué qu'elle allait prendre contact avec la bibliothèque américaine pour les mettre au courant de cette découverte.
Merci Laura Dulieu. Le temps cet après-midi, le soleil va rester généreux sur les deux tiers sud du pays. En revanche, plus au nord, les nuages seront nettement plus présents. Des Ardennes au Nord-Pas-de-Calais, en Normandie et à l'intérieur de la Bretagne, les températures maximales atteindront 20 à 24 degrés dans le quart nord-ouest. 24 à 29 sur le reste du pays et même 33 degrés sur l'extrême sud. C'est la fin de cette édition. Elle a été préparée avec François-Charles Domergue et réalisée par Jean-Guilain Meige.